100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, l'Allemagne s'apprête à célébrer la chute du mur de Berlin il y a 30 ans. Construit le 13 août 1961, c'est un symbole de la guerre froide qui s'effondre le 9 novembre 1989. Et les églises comptent pour beaucoup dans cet événement qui va remodeler l'Europe en profondeur. Longtemps, le pouvoir en Allemagne de l'Est a tenté de miner l'influence des églises chrétiennes. Cela ne les a pas empêchés de jouer un rôle clé dans cette révolution pacifique. C'est un reportage à Berlin de Déborah Berlioz.
Tom Zello ne peut s'empêcher de sourire en regardant la façade de l'église de Sion, la Zionskirche à Berlin. C'est son église préférée. Pourtant, Tom est un athée convaincu. Cette paroisse protestante, il l'a fréquentée quand il était encore opposant au régime communiste dans les années 80. Il faisait partie de l'Umweltbibliothèque, la bibliothèque de l'environnement, hébergée près de cette église.
Le pasteur nous a prêté la cave de sa propre maison. Nous avons pu installer des étagères et les remplir d'ouvrages qu'on ne trouvait pas ailleurs en RDA.
La bibliothèque fait venir des livres de l'Ouest, clandestinement bien sûr. Et ce groupe d'opposants publie également sa propre revue critique du régime communiste. Tom s'est toujours demandé ce qui poussait le pasteur à les accueillir.
Les gens dans ces groupes étaient jeunes, bruyants, buvaient parfois de l'alcool, fumaient des cigarettes. Quand certains voulaient dormir, nous faisions encore du bruit. Et parfois, l'imprimerie marchait la nuit dans la cave.
La cohabitation n'est donc pas des plus évidentes, sans compter les risques avec l'État. Pourtant, le pasteur de l'église de Sion a toujours soutenu Tom et ses amis. Après la chute du mur, Tom l'a enfin interrogé sur ses motivations.
Cela venait de sa propre expérience, dans sa jeunesse, dans les années 50. À l'époque, le régime communiste a fortement combattu les églises. Il s'agissait d'un combat pour les esprits et d'une lutte d'influence. Il voulait gagner la jeunesse et ne pas la laisser aux églises. Et ils y sont allés très durement.
Il faut dire qu'après la guerre, plus de 90% de la population est rattachée à une église. L'État commence donc par interdire des organisations de jeunesse chrétienne. Des centres sociaux sont fermés, des pasteurs enfermés. Mais après 1953, la RDA opte pour des méthodes plus subtiles. Elle instaure des versions laïques de certains rites de passage, comme la confirmation, remplacée par la Jugendweihe communiste. Le parti crée même les 10 commandements de la morale socialiste. Les églises gardent cependant une certaine autonomie. Elles n'ont pas besoin d'autorisation pour organiser des réunions, par exemple, et plusieurs paroisses abritent des cercles d'opposants dans les années 80. Mais certains pasteurs vont plus loin et agissent directement, comme Martin Gutzeit. Avec l'un de ses camarades de classe, Markus Meckel, il organise des discussions sur la liberté politique. Ils continueront après leurs études de théologie. Ils finiront par créer le Parti Socialiste Est-Allemand en 1989, peu avant la chute du mur. Il faut dire que les pasteurs ont une certaine liberté.
Dans notre église protestante, ce n'est pas comme si un évêque ou un général venait contrôler ce que nous faisions, même si certains dirigeants de l'église marchaient main dans la main avec les services de la Stasi.
La Stasi, la police secrète de l'État communiste, a en effet bien des informateurs dans l'église. Et surtout, de nombreux dirigeants des églises chrétiennes cherchent à collaborer avec l'État. En 1971, l'église protestante est-allemande se déclare même église dans le socialisme. Révoltés par cette proximité, certains pasteurs créent à Berlin, die Kirche von unten, l'église d'en bas. Le 7 mai 1989, cette organisation collabore avec la bibliothèque de Tom Zello. Après une élection communale, ils récupèrent les bulletins et recomptent les voix. Évidemment, leurs résultats n'ont rien à voir avec ceux annoncés par l'État et leurs découvertes sont relayées par les journalistes de l'Ouest.
Cette information est revenue en RDA au travers de la télé et de la radio ouest-allemande. Finalement, on ne faisait que montrer quelque chose que tous les gens critiques du régime savaient déjà. Mais cette fois, c'était prouvé et dit ouvertement. Donc cela a changé les choses.
Suite à cela, des manifestations éclatent et elles se répéteront à Berlin tous les 7 du mois. À Leipzig, les églises organisent des prières pour la paix qui deviennent de grandes manifestations contre le régime. Malgré tout, les églises n'ont pas réussi à endiguer la défection de leurs membres après la chute du mur. Si l'Allemagne compte aujourd'hui 60% de chrétiens, cette part dépasse rarement les 30% à l'Est.
Déborah Berlioz à Berlin, où nous serons demain pour une émission spéciale d'Accent d'Europe.
I am the river lagging, the city of Belfast. I am the morn mountains, the village of Arglass. I am the beauty of Lochney, the township of Strabane. If you wonder who I am Northern Ireland.
Le mur de Berlin s'est effondré, mais il reste d'autres murs en Europe aujourd'hui encore. À Chypre, dans l'enclave espagnole de Melilla, et également en Irlande du Nord. Dans la ville de Belfast, une centaine de murs séparent toujours quartiers catholiques et protestants. Un plan gouvernemental prévoit de les abolir à l'horizon 2023. Mais pour faire tomber ces murs de la paix, comme on les appelle, il faudrait aller plus loin dans la réconciliation des deux communautés. C'est un reportage de notre correspondante Emeline Vin.
Quartier d'Ardoyne, au nord-ouest de Belfast. En 2016, une portion du mur a été détruite dans ce quartier et remplacée par une balustrade.
Les gens qui vivent ici, ils ne voyaient rien de leur fenêtre. Il y avait juste le mur. Il faisait peut-être 2,5 mètres de haut.
Paddy Campbell a toujours vécu ici, à quelques rues du mur qu'il a vu construire. Il y a 3 ans, il a accueilli le projet avec réticence.
Je pensais que c'était dangereux. Il y avait encore beaucoup de factions ici, et encore aujourd'hui. Et là-haut, sur le rond-point, vous avez toujours des affrontements.
Seuls 300 mètres de mur ont été abattus. Il reste 3 autres portions sur cette même route.
Ce mur-là, il a été construit il y a 10 années. Ils l'ont repeint pour lui donner une apparence plus acceptable. Il y a un portail là-bas qui ne s'ouvre qu'une fois par an pour la fête des Irlandais entre les deux communautés.
Au sud d'Ardoyne, entre Shankill Road, protestante, et Falls Road, catholique, une muraille en béton surmontée de barbelés. Côté catholique, Bénédicte fume une cigarette sur son perron. Il ne croit pas à la chute des murs.
Ils ne tomberont jamais, ma chère. Je me rappelle quand ils ont été construits, je me rappelle les attentats à la bombe dans les rues. Moi vivant, je ne les verrai pas tomber. J'ai 68 ans. Il y a trop de divisions entre nous.
Dès le début des troubles, les murs de la paix ont été construits pour séparer les nationalistes catholiques et les loyalistes protestants et empêcher les uns et les autres d'aller perpétrer des attentats dans les quartiers ennemis. Belfast est alors rapidement devenue une ville divisée, sans circulation entre les deux communautés. Dans ce qu'on appelle les interfaces, ces quartiers mixtes traversés par les murs, le souvenir des violences est toujours très vif. Et ça justifie pour beaucoup le maintien des murs. Paul, qui ne nous donnera pas son nom de famille, organise des tours en taxi le long de ces murs de la paix.
La raison pour laquelle les murs ont été construits, c'est les fusillades. Ils s'entretuaient, il y avait des cocktails Molotov, des jets de pierre. Et puis, chacun rentrait chez soi et s'en tirait à bon compte. Si les murs étaient détruits, il suffirait d'une toute petite étincelle et ça serait reparti pour un tour.
En 2013, le gouvernement nord-irlandais de l'époque, mené par Peter Robinson, promet de démanteler les murs. Il se donne 10 ans. Aujourd'hui, ce projet semble au point mort, puisque le gouvernement nord-irlandais ne siège plus, paralysé par la crise politique. Joe O'Donnell travaille depuis 20 ans au sein de l'organisation Belfast Interface Project. La question de la réconciliation va au-delà des murs.
Nous travaillons avec des groupes de jeunes, des deux communautés, pour qu'ils mènent des projets variés, ensemble, et construisent des relations. C'est vraiment dur de détester quelqu'un que vous connaissez. C'est dur de combattre un ami. Et c'est vraiment plus simple de se réconcilier avec un ami.
Cette stratégie d'investir du temps, de l'argent pour ces communautés, Brendan Karen Brown la défend lui aussi. Ce chercheur enseigne la résolution de conflits sur le campus de Trinity College à Belfast.
Les murs se trouvent dans des zones parmi les plus défavorisées d'Irlande du Nord. Ils ne sont pas dans des quartiers de classe moyenne. Ils sont dans les zones qui ont le plus subi les violences du conflit et qui n'ont pas vraiment profité de la paix. Ce qu'on doit faire, c'est travailler davantage à créer des opportunités, des emplois, une plus grande impression de cohésion entre les communautés, de façon à ce que les murs n'aient plus vraiment d'importance.
La destruction des murs, physique et psychologique, prendra encore de nombreuses années.
En Grèce, dans le prolongement du fleuve Evros, un mur de barbelés marque depuis 2012 la frontière terrestre avec la Turquie voisine. Ce mur-là, il a été construit sur la route des migrations pour empêcher des hommes et des femmes d'entrer en Europe. Mais les autorités ont eu beau clôturer cette bande de terre d'un peu plus de 12 kilomètres, les arrivées n'ont pas cessé et les flux migratoires se sont déplacés plus au sud, vers les îles grecques de la mer Égée. Les précisions de Joël Brunner.
En 2010, à l'époque où la construction du mur de barbelés n'était encore qu'un projet, la petite zone de frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie était devenue le principal point d'entrée des sans-papiers dans l'Union européenne. Près de la moitié des arrivées illégales y étaient détectées. Inspirées par les clôtures qui, au Maroc, restreignent l'accès aux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla depuis les années 90, Athènes s'est alors lancée dans la mise en place de son propre mur. Dès le départ, Cecilia Malmström, alors commissaire européenne aux migrations, avait jugé cette clôture, dont l'érection était encouragée par Paris et Berlin, plutôt inutile, refusant d'engager des fonds européens. En 2011, l'un de ses porte-paroles précisait que murs et grillages sont des mesures à court terme qui ne permettent pas de s'attaquer de manière structurelle à la question de l'immigration clandestine. Au final, l'Europe a fait la moue, mais a tout de même fini par contribuer financièrement aux caméras thermiques installées le long de la clôture. Depuis, l'UE a mis en place un autre grillage en Bulgarie, elle aussi voisine de la Turquie. Aujourd'hui, 7 ans après l'édification de ce mur symbolique à la frontière gréco-turque, les passeurs se sont adaptés et les flux migratoires déplacés. Le pays connaît ainsi un regain d'arrivées par bateau depuis la Turquie. Et cette année, la Grèce est redevenue la première porte d'entrée des demandeurs d'asile en Europe. Résultat, dans plusieurs îles de la mer Égée, comme à Lesbos et Samos, ces migrants s'entassent par milliers dans des camps inadaptés et largement insalubres. S'il a déplacé la porte d'entrée européenne, le mur n'a pas fait barrage contre les problèmes de fond.
Trente ans après la chute du mur, il y a eu la réunification allemande, c'était en 1990, et puis la réunification des deux Europes à partir de 2004. Alors aujourd'hui, comment se portent les anciennes démocraties populaires? Dans quelle mesure, en termes de croissance, de pouvoir d'achat, de pauvreté et d'inégalité, se sont-elles rapprochées? À quel coût des standards ouest-européens? C'est ce qu'on va voir avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Sur un plan très global, Daniel, comment est-ce que les anciens pays de l'Est ont évolué depuis la fin du système socialiste?
Ces pays, y compris l'ex-Allemagne de l'Est, sont passés par 10 années de transformation économique et sociale extrêmement douloureuse pour les populations. Le changement de système, la réforme de l'administration, les restructurations et privatisations d'entreprises ont entraîné un fort chômage et une baisse sévère du niveau de vie. Pour ces raisons, il convient de mesurer les progrès de l'Europe de l'Est à partir des années 2000, voire 2004, année de l'adhésion à l'Europe de 8 des 11 pays concernés. Ce qui est certain, c'est que la transition des années 90 a déclenché une forte émigration vers l'Ouest qui prend parfois des allures d'exode.
Vous parlez d'exode, est-ce que ce n'est pas un mot très fort?
Oui, le terme n'est pas excessif, puisqu'entre 1989 et 2017, près de 9 millions d'Est-Européens ont quitté leur pays, soit 7,5% de la population totale. Cela sans compter les habitants de l'ex-RDA qui sont partis à l'ouest de l'Allemagne. Et il faut noter que cette émigration ne s'est pas ralentie, au contraire, car 6,5 millions de personnes sont parties entre 2007 et 2017, signe que l'intégration à l'Union européenne a favorisé les départs en les facilitant. En 30 ans, la Roumanie a perdu 15% de sa population, la Bulgarie 21%, la Lituanie 24% et la Lettonie plus de 27%. Une véritable saignée.
Est-ce que ces chiffres traduisent un échec économique des pays de l'Est ?
Paradoxalement, pas du tout. Entre 2004 et 2018, le PIB réel de l'Allemagne s'est accru de 24%, celui de la France de 17%. Mais les croissances sont bien supérieures à l'Est. 62% en Roumanie, 68% en Slovaquie et même 73% en Pologne, le pays le plus important avec ses 38 millions d'habitants. D'ailleurs, le pouvoir d'achat a doublé en Pologne. Un rattrapage rapide qui se constate également pour la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Lituanie.
Alors Daniel, on imagine que ce rattrapage, il va déboucher sur un creusement des inégalités.
Eh bien non. Si l'on compare les revenus des 20% de la population les moins riches et les 20% les plus riches, l'écart se réduit dans plusieurs pays, en Estonie, en Lettonie, en Roumanie et encore une fois en Pologne, où l'écart de revenus est désormais identique à celui de la France, soit 4,2. De même, le taux de risque de pauvreté mesuré par Eurostat diminue en Pologne et il est désormais inférieur à celui de l'Allemagne.
Donc Daniel, on peut dire que le développement économique de l'Est, il est bien réel.
Absolument, notamment grâce à l'ouverture économique vers l'Europe et le monde. Pour comparer des pays de taille similaire, les exportations de la Pologne représentaient il y a 15 ans 40% des exportations de l'Espagne. Aujourd'hui, cette proportion est de 75%.
Tous ces chiffres, Daniel, ils dessinent un tableau assez idyllique, finalement.
Attention, la vie reste très difficile dans plusieurs pays, en particulier la Roumanie et la Bulgarie. Mais d'autres pays, comme la République tchèque ou la Slovénie, ont déjà rattrapé le niveau de vie de l'Espagne.
Daniel, l'appartenance à l'Union européenne, c'est donc plutôt positif pour ces pays.
Elle a été bénéfique en termes de croissance, de pouvoir d'achat, de commerce, d'investissement. Mais la liberté de circulation des personnes a eu un effet de siphon des populations de l'Est vers l'Ouest, avec les effets pervers que l'on connaît sur les marchés du travail occidentaux. Et puis, on doit constater aussi que les nouveaux membres de l'Union n'ont pratiquement plus d'indépendance économique et se sont en fait transformés en vastes filiales des puissants groupes de l'Ouest. C'était sans doute le prix à payer pour la remise à niveau économique et social en cours.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
La création audiovisuelle à l'honneur au GIF, le Festival international du film de Genève. Un festival pas tout à fait comme les autres, puisqu'il a fait le pari de mettre sur un pied d'égalité le cinéma et les séries avec le numérique et la réalité augmentée. Une programmation quasi unique en Europe, Jérémy Lanche.
Que serait un festival de cinéma sans ses stars? Le GIF 2019 ne fait pas exception à la règle, avec la présence des réalisateurs David Cronenberg, Xavier Dolan et Costa Gavras, pour ne citer qu'eux. Jean Dujardin est également à Genève pour le film de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus. Mais là où Cannes brille par son strass, le Festival international du film de Genève se distingue surtout par son éclectisme. Depuis 1995, l'ex-festival Tous Écrans met un point d'honneur à promouvoir les créations visuelles, toutes les créations, peu importe leur support. Ici, on vient autant pour voir un film que pour y participer. Exemple avec Mechanical Souls, un thriller de science-fiction en réalité augmentée de 30 minutes, où le spectateur peut décider de la suite des événements grâce à son casque de réalité virtuelle.
The Bride's family was an impressive family.
Was.
They still are. Just don't forget who your real family is.
Hey.
Cinq spectateurs peuvent participer en même temps à Mechanical Souls, mais aucun ne verra la même chose, d'autant plus qu'ils peuvent interagir avec l'un des acteurs qui joue en direct les scènes. Une véritable prouesse technique, un peu comme celle proposée par Eden. Là aussi, cinq participants sont plongés dans un univers virtuel, en l'occurrence une forêt qu'ils vont pouvoir modeler du regard. Eden se veut une expérience sensorielle et collective aux frontières de l'art et des nouvelles technologies. Une expérience pas si éloignée que ça du cinéma. La preuve, c'est que le réalisateur de 99 ans, Yann Kounen, propose trois œuvres immersives, dont un trip chamanique sous acide et un voyage électro dans le Grand Nord. Là encore, grâce à la réalité virtuelle, le GIF n'est certainement pas le festival de cinéma le plus prestigieux de Suisse, ni même le plus fréquenté. Le festival de Locarno, en Suisse italienne, coche à lui seul les deux cases. Mais le GIF est sans aucun doute l'un des rendez-vous les plus avant-gardistes pour l'audiovisuel en Europe. Le Festival international du film de Genève, c'est jusqu'au 10 novembre et c'est ouvert au public.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.